Bonjour, bienvenue à la visite, Simon d'ailleurs, notre frère de l'Église réformée baptiste de Québec. Bienvenue à toi et ta famille. Donc on va continuer dans Éphésiens. Vous pouvez tourner tout de suite. On est rendu dans Éphésiens 2. La semaine passée, on a vu les versets 1 à 3 d'Éphésiens 2. Dans lequel Paul commence par nous donner un portrait sombre, mais réaliste, de l'état de l'homme devant Dieu. Celui d'un homme en perdition, avec une chair corrompue, et un désir de défier la volonté de Dieu. Donc ça, on a vu que c'était l'état naturel de l'homme. On a regardé la condition de ce monde, comment l'homme est naturellement rebelle à Dieu, à son autorité. Et on continue ce matin dans le bloc de versets de 4 à 7, où après avoir présenté l'état de l'homme dans tout son péché, il nous présente la richesse de Dieu à l'égard de l'homme. Je vais lire les versets 1 à 3 juste pour qu'on se remette en contexte. Éphésiens 2, 1 à 3. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Donc, comme je l'ai mentionné la semaine passée, nous devons savoir pourquoi on a besoin d'une bonne nouvelle. Et c'est un peu ce que Paul a fait dans les versets 1 à 3. C'est pourquoi Paul nous présente ensuite ce qui fait la joie du chrétien, ou ce qui devrait faire la joie du croyant, c'est-à-dire la grâce de Dieu à notre égard. Ces passages nous présentent une autre doctrine qui fait partie de ce qu'on appelle les cinq solas de la Réforme. L'une des fondations de la Réforme protestante, c'est-à-dire la grâce seule, solas gratia. Nous verrons ce matin qu'est-ce que la grâce est et comment elle est manifestée dans nos vies. L'expression « mais Dieu » qui entame le verset 4, avec lequel il fait une espèce de transition, est en soi un témoignage de l'Évangile. Cette expression seule représente très bien l'histoire de l'humanité et de la grâce de Dieu. On va lire les versets 4 à 7, puis après ça, on va aller d'un petit mot de prière. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Seigneur, nous prions ce matin que tu puisses glorifier ta parole, que tu puisses élever ton nom majestueux. Nous voulons te remercier pour cette grâce, cet amour dont tu nous as fait part, malgré nos offenses, notre péché. Et nous voulons te remercier de tout notre cœur. Nous prions ce matin que tu puisses ouvrir nos cœurs à entendre, écouter ta voix, celle de ta parole. Merci pour cette révélation, Seigneur, que tu mets à notre disposition pour que l'on puisse apprendre à te connaître. Glorifie ton nom ici ce matin, Seigneur. Amen. Donc, vous avez encore, dans votre feuillet, un petit guide là, de la prédication, si ça vous aide à suivre, que j'ai modifié un petit peu, donc ça se peut qu'il y ait des petites différences des fois. Là. Le premier sujet, évidemment, que l'on doit toucher quand on aborde ces versets, c'est la grâce de Dieu. Le sujet de la grâce de Dieu a certainement fait couler beaucoup d'encre depuis les années. La grâce est pour l'homme un sujet de grande joie. Pour le chrétien, la grâce est synonyme de l'amour de Dieu en action, de son pardon et de la régénération des pécheurs. La grâce de Dieu et sa bonté pour nous est certainement le point de départ que l'on voit ici de Paul en ce qui concerne le salut de l'homme. Ça commence par la grâce de Dieu. Donc, il faut commencer par comprendre l'état de l'homme naturel et ensuite comprendre la grâce de Dieu. Ces deux compréhensions-là ensemble forment ce qu'on pourrait dire qui est à la base d'une vision chrétienne du monde. D'une vision juste de ce qu'est l'homme, de comment l'homme peut être sauvé. Et on voit une première chose par rapport à la grâce. On voit la puissance de la grâce. Et vous savez, la puissance de la grâce n'est pas mieux démontrée que quand on comprend l'état de dépravation totale de l'homme. Paul met ici en évidence quand il contraste les versets 1 à 3, où il parle de l'état naturel de l'homme et en peint une image qui est assez troublante, et la met en contraste avec la grâce de Dieu tout de suite après. La grâce de Dieu est puissante et son salut aussi à cause de la bonté nécessaire que Dieu a dû avoir pour aimer l'homme dans son état naturel. 1 Jean 4, 19 nous dit « Pour nous, nous l'aimions parce qu'il nous a aimés le premier. » La puissance de Dieu se manifeste dans toute sa gloire quand nous voyons avec quelle bonté il aime ses élus. Ses élus qui vivaient dans le péché, eux aussi. Des hommes et des femmes dont le cœur était rebelle et tortueux. Il les aime d'un amour salutaire, malgré la laideur de leurs actions et de leur cœur. Et là, je parle de vous en passant. La laideur de nos cœurs. Et Dieu a vu dépasser cela. Le salut est un miracle en soi. Un des plus grands miracles qui se fait encore aujourd'hui. Est une puissance, est un acte puissant de Dieu à l'égard de l'homme. Mais deuxièmement, il faut bien définir la grâce. Donc, on parle de la grâce. Et l'amour et la grâce sont probablement deux des sujets dont lequel on entend le plus parler dans les églises évangéliques au large, dans le sens large. Mais parfois, on a des idées un peu corrompues et bizarres de ce que sont ces deux choses. Donc, il faut premièrement définir, selon la Bible, qu'est-ce que c'est la grâce. Et pour comprendre la grâce de Dieu, pour premièrement la définir. La grâce de Dieu devrait premièrement être comprise comme le résultat des attributs de Dieu. La grâce de Dieu vient principalement de la miséricorde de Dieu. C'est ce que Paul nous dit. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Si nous regardons versets 4 et 5, on voit que Paul nous donne une définition simple de ce qu'est la grâce. Premièrement, il mentionne la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est quoi? C'est d'avoir une pitié qui mène à un acte de bonté. Donc, c'est une forme de pitié qui mène à un acte de bonté. Donc, le salut peut certainement être compris sous cet angle. Dans sa pitié envers l'état pitoyable de l'homme, Dieu jette un regard vers nous et sauve ses élus par un acte de bonté ultime, c'est-à-dire la vie de son Fils unique. En vertu de sa miséricorde et de son grand amour pour nous, Dieu se met à part un peuple parmi ceux qui l'ont trahi, pas parmi les plus gentils, parce qu'on n'avait pas de gentils. Il se choisit des gens parmi ceux qui méritaient la mort éternelle, qui sont ensuite épargnés de la condamnation spirituelle. Ensuite, Paul mentionne comment Dieu nous a donné la vie, malgré nos offenses. Donc, quand on met tous ces objets-là ensemble, on pourrait dire que la grâce de Dieu, selon Paul, selon ce contexte, est la mise en action de la miséricorde de Dieu pour l'homme pécheur. La mise en action de la miséricorde de Dieu pour le pécheur. Qui mène à quoi? Qui mène à un salut qui est immérité. La troisième chose que l'on voit par rapport à la grâce de Dieu dans ce passage, c'est l'amour de Dieu pour ses élus. Et là, je l'ai séparé en trois catégories. On voit que cet amour pour ses élus ne vient pas de l'œuvre de ses élus. Paul s'assure de nous rappeler comment nos œuvres sont mauvaises. Il l'a fait pendant trois versets précédents. Mais même dans ce bloc de texte de 4 à 7, il s'assure qu'on se rappelle que nos œuvres sont mauvaises et comment il n'y a aucun mérite à nos actions. C'est seulement à cause de l'amour de Dieu que nous recevons sa grâce. Nos œuvres sont le résultat de sa bonté envers nous. Vous savez, dans tout ça, la volonté de Dieu, c'est que l'homme reconnaisse sa faiblesse, premièrement, et son incapacité à se sauver lui-même. Que l'homme soit humilié dans son incapacité et dans sa méchanceté. Non pas pour le plaisir d'humilier, mais à cause de la gloire qui est due à Dieu. L'homme doit reconnaître son incapacité à se sauver par ses idéologies, par ses œuvres. Il doit reconnaître la supériorité de Christ dans sa propre vie et ultimement sur tout. Le deuxième sous-point, c'est que l'amour de Dieu pour ses élus n'est non pas notre décision. On voit clairement dans le langage de Paul, dans ces versets, que c'est pas un langage qui est inclusif de l'homme. Ce que je veux dire par là, c'est que l'homme n'est pas celui qui initie quoi que ce soit dans tout ce que Paul dit. Le bloc de texte commence par « Mais Dieu ». Donc, en partant, on nous dit que le sujet, c'est Dieu. C'est pas Dieu. Pas Dieu avec l'homme, ou Dieu qui est un petit peu de l'homme. Remarquez les choix de mots que Paul emploie. Mais Dieu, à cause de son grand amour, pas celui de l'homme, le sien. Il nous a rendus à la vie, lui. Il nous a ressuscités. Sa grâce, sa bonté, sa miséricorde. Il n'y a aucune place à l'homme dans ce que Paul dit. Outre le fait que par défaut, on est pécheur et rebelle à Dieu. Il n'y a rien dans tout ce passage qui nous expose que l'homme soit de quelque façon que ce soit responsable entièrement ou partiellement ou un petit peu de son propre salut. Zéro. Zéro pin-bar. Romains 5:8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Vous savez, il y a au sein du cercle évangélique ce que j'appellerais le fléau des décisions. La fameuse décision du salut. Vous savez, quand j'ai compris la grâce de Dieu puis la dépravation du cœur de l'homme, l'une des premières choses que j'ai fait comme ménage dans ma vie, c'est d'enrayer toutes ces expressions-là qui disaient « il a pris une décision pour Dieu » ou « il a choisi le salut » ou « il a dit oui à Jésus ». Toutes ces choses-là. je les ai rayés. Parce que toutes ces expressions sont à la base d'une compréhension arménienne du salut, où l'homme participe à son salut. Et vous savez, sans nommer de nom, il y a des évangélistes extrêmement populaires qui ont passé leur vie à ramasser des décisions de salut à la TV. Finalement, la plupart de ces gens sont des faux convertis qui ne s'assembleront jamais dans une église, selon les statistiques. Tout cela parce qu'on est plus intéressé par nos chiffres de décision que par le vrai état des âmes qui sont devant nous. Je crois qu'on doit faire l'effort nécessaire pour parler du salut comme une réception de la grâce de Dieu, et non pas comme une décision ou un choix. On reçoit le salut, on reçoit la grâce de Dieu. On est héritier de la grâce de Dieu. On ne la choisit pas. Je sais que ça peut être mélangeant parce que des fois, humainement, on a l'impression que dans tout ce processus-là, on participe un peu à cet événement, à cette œuvre de salut dans notre vie. Parce qu'on réagit à des événements, on réagit à la grâce de Dieu. Et on en vient à un moment, même moi dans ma vie, où quand je me suis consacré, il y a eu des pensées. D'une certaine façon, j'ai dit oui, je veux me consacrer à Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça est le résultat de quelque chose qui est déjà accompli en nous. Cette action de dire oui ou de prendre une décision n'est pas salutaire. C'est rien. C'est juste le cœur de l'homme qui reconnaît ce que Dieu a fait en lui. Donc, l'œuvre du salut appartient, selon Paul, à Dieu seul. À Dieu qui donne à qui il veut, sans que l'homme mérite quoi que ce soit. Ce qui nous apporte au troisième sous-point, c'est-à-dire que Dieu donne le salut par sa volonté et par son grand amour seul. En lien avec le dernier point, on voit dans ces versets que la grâce de Dieu n'est pas le fruit de notre désir ou de notre volonté. Dans l'acronyme TULIP, qui est souvent utilisé pour les 5 points du calvinisme, il y a ce qu'on appelle la grâce irrésistible. Dieu donne le salut par sa grâce. Et l'homme, non seulement n'a pas de décision à prendre, comme on a vu, mais il n'a pas d'acceptation à avoir non plus. Ce qui peut vous sembler un peu troublant, je ne sais pas. Mais c'est que la grâce de Dieu est un don de Dieu. Un don que l'homme reçoit et qu'il n'est même pas apte à refuser. Et c'est quand même réconfortant, je vous dirais. Parce que sinon, on serait une gang pas sauvée. Comme si Dieu, la majesté de l'univers, comme on l'a vu précédemment dans Éphésiens 1, avait besoin de notre approbation pour changer nos cœurs. Oui, le Dieu Tout-Puissant Créateur, je te donne la permission de changer mon cœur. Est-ce que vous voyez comment c'est arrogant? Dieu n'a pas besoin de notre permission. Si c'était le cas, personne ne serait sauvé, parce que tout le monde déciderait de rester dans leur malheur. Parce qu'on nous dit que l'homme est pécheur et rebelle à Dieu. L'homme n'a pas la capacité de se sauver lui-même. Il n'a pas non plus la capacité de refuser le don de Dieu. Et cette idée pernicieuse du choix et du refus de l'homme ou du don de l'homme, cette idée pernicieuse sous-entend que l'homme peut résister à l'appel du salut, quand en réalité, tout dans la parole nous témoigne que Dieu s'est choisi lui-même un peuple qu'on appelle les élus et qui les a appelés de façon miraculeuse et efficace au salut. Ça nous dit qu'aucun de ses enfants vont être perdus.
Aucun.
L'homme n'a pas la puissance nécessaire pour dire non à Dieu. Tout comme il n'a pas la puissance nécessaire pour dire oui. Et c'est ce qui rend le salut, mes amis, parfaitement gracieux. C'est-à-dire immérité et irrésistible. Quatrième sous-point, c'est que le salut est par Jésus-Christ. Et donc, ça peut être un peu évident, mais finalement, c'est aussi clair, selon le passage, que notre salut passe par la personne de Jésus-Christ. Encore une fois, il nous faut glorifier et exalter Christ à sa juste valeur, comme l'objet de notre salut, comme la personne de notre Sauveur, de notre Seigneur, qui rend le pardon de nos fautes possible. Paul nous dit même que nous sommes ressuscités avec Christ et que nous sommes maintenant en Christ. Ce qui nous apporte au résultat de sa grâce pour nous. Et dans cette petite section-là, j'ai rajouté un premier sous-point pour le résultat de sa grâce, qui est en fait une mise en garde. Parce que malheureusement, depuis la chute, l'homme réussit à corrompre tout bon concept de la parole de Dieu par la corruption de son cœur et de ses pensées. Et même la grâce a été pervertie au cours des années. Une mise en garde est nécessaire en ce qui concerne la grâce, pas la grâce de Dieu, mais ce que les hommes pensent parfois de la grâce de Dieu. Certains mouvements évangéliques ont teinté la grâce d'une sorte de toutes sortes de mauvaises applications ou de mauvaises compréhensions. L'antinomisme, par exemple, qui est un rejet de la loi morale et éthique de Dieu. L'antinomisme, c'est un nom compliqué là, pour dire rejet de la loi morale et éthique. L'antinomisme mène à une vision de la grâce qui soit sans conséquence sur la vie pratique des croyants. Les croyants qui obéissent ou non à Dieu ont aucune responsabilité de plaire à Dieu et la grâce devient une sorte de passe-partout. Donc un peu comme, si je pourrais vous donner un exemple, comme la carte de sortie de Monopoly. Tu sais, sortie de prison gratuite, là. Pour eux, la grâce, c'est un peu ça. On fait des niaiseries puis on a une carte de Monopoly, sortie de prison gratuite. Ce mouvement voit la grâce un peu comme un laisser-passer pour pratiquer le péché, et non qu'ils veulent pratiquer le péché, mais qu'ils voient le péché comme étant inévitable pour les chrétiens, même pour ceux qui ont l'Esprit Saint. Ce mouvement, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ça, là, mais c'est quand même très populaire et souvent surnommé l'hypergrâce, hypergrace en anglais. Elle prône la nature inévitable du péché du chrétien au lieu du changement qui mène à une sainteté. MacArthur décrit les failles de ce mouvement ainsi. Le mouvement hypergrâce, et c'est une citation, le mouvement hypergrâce souligne constamment la dépravation et le pardon avec peu ou pas d'accent sur le pouvoir transformateur de la grâce de Dieu. Ils perdent de vue le travail de régénération de Dieu qui opère dans le salut. Ils peignent le pécheur dans un coin sans défense et font de la grâce de Dieu une bouée de secours à leur comportement. Ce n'est pas un portrait biblique précis de la transformation que le Seigneur a opérée dans la vie de son peuple. Oui, nous sommes dépendants de sa grâce, mais ce n'est pas une excuse quotidienne pour nos défaillances au péché. Donc, je vous mets en garde, puisqu'il faut que vous sachiez qu'il est possible de pervertir une aussi belle chose que la grâce et la bonté de Dieu. Donc, il faut faire attention de bien comprendre et ne pas être berné par les subtilités de ces mouvements qui ont une conception qui est mauvaise de ce que c'est la grâce et qui l'utilisent à des mauvais fins. Comme toute autre vérité, il faut comprendre cette vérité-là dans l'ensemble de ce que la Bible enseigne et non seulement de façon isolée ou hors proportion. La grâce ne devrait rien changer à notre désir d'obéir Dieu. On devrait obéir Dieu malgré le fait que Dieu a de la grâce pour nous. même Paul le dit, de ne pas rester dans la désobéissance parce qu'on a la grâce. On devrait obéir à la juste, sainte loi de Dieu qui est inchangeable au travers le temps. J'en ai déjà parlé amplement de cela, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Le deuxième résultat de sa grâce que l'on peut voir, c'est les réalités présentes du salut dans nos vies. Nous étions morts dans nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, il y a un aspect qui est très aujourd'hui, qui était présent du salut et de la grâce de Dieu, qui nous affecte aujourd'hui. Paul utilise un langage qui nous parle des bénédictions présentes, et pourtant, on sait qu'une portion de ces bénédictions sont forcément futures. Donc, Paul utilise un langage qui met en évidence le fait que nous avons reçu ces bontés de Dieu, malgré leurs certains accomplissements qui sont à venir. On pourrait dire que Paul nous parle en quelque sorte de notre héritage spirituel à venir, mais qu'il y a déjà des répercussions dans le présent. Et par ces passages, Paul nous présente quatre façons dont nous sommes présentement bénis de la part de Dieu. Il nous présente premièrement l'amour de Dieu à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Donc, la première bénédiction présente du croyant, c'est l'amour de Dieu dont on bénéficie. Sa miséricorde, qu'on pourrait traduire par sa pitié. La deuxième bénédiction, c'est la pitié de Dieu, la pitié que Dieu a à l'égard de ses enfants qui étaient dans le péché. Troisièmement, on voit sa grâce, qui est probablement le point central que Paul essaie d'amener. Et finalement, on voit sa bonté. Sa bonté. Notre réalité en tant que croyant est un résultat direct de la personne de Dieu et de ses attributs, de qui est Dieu. Et c'est sans compter la joie du chrétien qui vient du résultat de savoir que Jésus-Christ nous prépare avec lui. Ça nous dit qu'on est ressuscité spirituellement. Donc, dans le présent, on est ressuscité de façon spirituelle. On n'est plus mort dans nos offenses. Et un jour, on va être ressuscité, littéralement, et élevé ensemble avec Christ. Quelle grande joie! La troisième accomplissement de cette grâce, c'est cette réalité future du salut. Premièrement, Paul emploie l'expression souvent, en anglais c'est « ages to come », en français c'est « le siècle à venir ». Il y a certainement un aspect eschatologique, c'est-à-dire de la fin des temps, aux bénédictions dont Paul nous fait part dans le verset 6. Il y a donc une portion de notre joie en tant que chrétien qui est sous forme d'un espoir futur. Donc, évidemment, il y en a une grande partie qui est présente. On peut prendre confort dans son amour, sa pitié, sa grâce, sa bonté, mais aussi il y a une portion qui est un espoir dans le futur. En plus de la réalité du présent dont Dieu nous fait grâce. Paul fait souvent référence à cet âge à venir. Pour Paul, cet âge à venir est compris comme étant l'âge du règne de Christ. Donc, dans ce sens, Paul l'aperçoit comme étant déjà commencé et comme se terminant, en fait, jamais, parce que Christ va tout le temps régner. Ben, il y a différentes interprétations de ça, mais c'est pas vraiment important pour l'instant. Mais on est dans cet âge à venir qui est commencé, qui progresse. Et un jour, Christ va revenir pour accomplir ultimement cette résurrection finale. Donc, on peut, en plus des bénédictions présentes, avoir l'espoir d'un futur avec Christ, réellement. Et on voit aussi le salut accompli parfaitement. Et en parenthèse, pour ceux qui prennent des notes, vous pourriez marquer l'union avec Christ. C'est-à-dire l'union avec Christ. L'expression « en Christ », comme on l'a déjà vu, est centrale à la théologie de Paul, surtout dans Éphésiens. Il nous donne une meilleure idée de ce qu'il sous-entend par cette expression dans ces passages. Qu'est-ce que c'est exactement d'être en Christ? D'être ressuscité, d'être élevé, d'être assis au ciel avec Christ. Je lisais des commentateurs qui disaient que malheureusement aujourd'hui, peu de gens comprennent ces mots comme étant quelque chose de plus que des paroles spirituelles vagues, un peu nébuleuses. Donc on a tendance à mystifier puis se dire « Ah, c'est flou, c'est pas bien grave ». Mais tout au contraire, la doctrine de l'union à Christ est probablement l'une des plus importantes pour Paul, qui répète cette expression des centaines de fois dans le Nouveau Testament. On pourrait comprendre ces mots de Paul, cette expression « en Christ » de deux façons. Premièrement, on est uni à Christ dans le sens où Christ est la tête fédérale de notre alliance. C'est-à-dire qu'il est le chef, il est le représentant, un peu comme au Canada, on dit qu'on est une fédération. Donc, on a des chefs qui parlent, qui sont élus, mais qui parlent pour tous. Donc, nos chefs représentent notre pays. Ils sont le chef de notre pays. Donc, la tête fédérale, ce qu'on veut dire par là, c'est que Christ est notre chef. Il représente ses enfants auprès de Dieu. Il représente l'humanité et agit au nom des croyants. Et dans ce sens, nous sommes unis à Christ par alliance. Deuxièmement, on est aussi unis à lui de façon expérientielle, c'est-à-dire que dans notre quotidien, notre union à Christ a un effet réel qui affecte notre relation spirituelle. Les bénédictions présentes que l'on voit sont une forme de cette union-là, une forme de bénédiction de cette union-là. Par notre union à Christ comme croyant, on expérimente pratiquement les bénédictions de Dieu, la bonté, son amour, sa grâce, son pardon. Donc la vie chrétienne devrait en soi être une expérience de l'union à Christ. Et dans ces deux sens, notre salut est parfaitement accompli par Christ. Et nous sommes désormais trouvés, un peu comme le chant le dit, cachés sous ses ailes, sous son aile. Cachés dans cette union en Christ. Le troisième point que l'on peut voir dans ces passages nous vient au verset 7 afin de montrer dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Ce serait difficile de lire le verset 7 sans parler de la gloire de Dieu. Et deux points nous sont donnés par Paul. Premièrement, un peu comme on vient déjà de le voir, l'aspect qu'on est en Christ. Christ est au centre de la gloire du Père. Le salut des croyants qui sont élevés ensemble en tant qu'Église de Christ et qui sont assis avec Christ rend gloire à Dieu. La personne, l'œuvre et la grâce de Dieu sont donc manifestées au monde extérieur qui un jour, au retour physique de Dieu, lui redonneront toute la gloire qui lui est due. Pour l'instant, peut-être qu'ils sont dans le déni. Mais il y a un jour où ils vont comprendre. Ils verront alors la totalité de cette œuvre de Christ qu'ils ont malheureusement manqué de leur vivant. Mais même dans cette vie, au travers l'Église, au travers le peuple de Dieu, et évidemment ceux qui le composent, les gens peuvent entrevoir la gloire de Dieu par notre salut et par notre union avec Christ. Et même si les gens ne savent pas toujours c'est quoi qu'ils voient, ils doivent voir une parcelle de la gloire de Dieu en nous. Et donc, Paul nous dit aussi, deuxièmement, que c'est le but ultime de la vie chrétienne. Il est aussi important de souligner la raison derrière notre salut. Vous savez, comme on l'a vu, Dieu ne nous a pas sauvés parce qu'on était mignons, beaux et gentils. La raison pour laquelle nous sommes élevés avec Christ, c'est la gloire de Dieu. C'est la seule raison pour que Dieu ait la gloire. Dieu tire la gloire qui lui est due à jamais par l'œuvre de Christ en nous. Par l'œuvre qui opère au travers les croyants, au travers l'œuvre de son Église. Nous sommes donc, en ce sens, un résultat de la puissance de Dieu pour sa gloire. Et c'est ainsi que l'on devrait refléter autour de nous la richesse et la bonté de la personne de Dieu. Pour terminer, j'ai trois applications pratiques que l'on peut soutirer de ces textes ce matin. Premièrement, il faut apprendre à glorifier Dieu par nos vies. Je suis conscient que l'application est plutôt large. C'est voulu. Il n'y aurait pas assez de temps pour spécifier toutes les façons dont il nous est possible de glorifier Dieu. Je crois qu'une bonne approche générale à avoir pour notre vie, c'est d'apprendre à glorifier Dieu là où Dieu nous met, là où on est. Si vous êtes mère à la maison, servez votre mari, servez votre maison comme le Seigneur. Élevez vos enfants selon les principes de la parole. Glorifiez Dieu dans le quotidien par votre désir de le voir dans votre foyer. Si vous êtes au travail, glorifiez Dieu par votre éthique de travail, par votre bonté envers vos collègues, par votre joie de vivre. Glorifiez Dieu en démontrant aux gens autour de vous l'importance de votre foi. À l'école, au bureau, à la retraite, toute situation peut, et non seulement peut, devrait être utilisée à la gloire de Dieu. Il n'y a aucune situation dans nos vies qui ne peut être utilisée à la gloire de Dieu. Vous savez, nos situations ici-bas ne sont pas toujours idéales. En fait, je dirais qu'elles sont rarement idéales. Mais le Seigneur nous a néanmoins préparé de bonnes œuvres que nous pouvons accomplir et des temps où nous pouvons personnellement rendre gloire à Dieu par la prière, par la supplication. Prenez toute occasion et servez-vous du peu de temps que le Seigneur nous donne sur cette terre pour avoir un impact autour de vous. Vous savez, on entend souvent des histoires spéciales, touchantes ou hors du commun. Des gens extraordinaires qui font des choses extraordinaires. Des missionnaires comme Hudson Taylor qui partent conquérir la Chine au nom de l'Évangile au milieu de la persécution. Et c'est inspirant. On devrait s'inspirer de ces histoires et ne pas les oublier parce qu'ils nous fortifient. Donne espoir que l'on peut faire quelque chose aussi pour la gloire de Dieu. Mais vous savez, ces histoires peuvent cependant parfois nous donner de fausses impressions. La vérité, c'est que la majorité d'entre nous ont des vies très ordinaires et c'est voulu de Dieu ainsi. Nous ne sommes pas tous appelés à être des missionnaires. Scoop. Et je suis convaincu que le seul fardeau qu'on devrait avoir est celui de glorifier Dieu. Dans notre vie, aussi ordinaire qu'elle soit. Même dans le plus banal des quotidiens, Dieu peut être glorifié. Et nous devrions prendre plaisir à cette tâche, une tâche honorable qui nous est donnée de faire. Il faut apprendre à glorifier Dieu de plus en plus. Dans notre contexte de vie, où Dieu nous met. Et si Dieu un jour vous appelle à la mission, au pastorat, ou à toutes sortes de bonnes œuvres comme ça, il vous ouvrira les portes et vous donnera les outils nécessaires. Moi, le premier, je réalise à quel point il est facile de s'endormir et être paralysé par le confort de nos vies, qui sont souvent sans trop de persécution ou sans trop de tracas. On doit apprendre à vivre chaque jour quotidien, chaque jour ordinaire, comme un cadeau de Dieu à l'intention de le glorifier, dans les petites choses comme dans les grandes. Et vous savez, je suis sûr que Hudson Taylor a commencé dans les petites choses à rendre gloire à Dieu, comme n'importe qui. Deuxième application, qui est un peu une transition naturelle de la première, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle. C'est un peu la suite de la première application. On devrait, pour la gloire de Dieu, mettre nos peurs de côté pour proclamer l'Évangile. Vous savez, on n'est pas tous missionnaires et on n'est pas tous appelés à être missionnaires. Mais on est tous des témoins de Christ. Parce que Christ a fait une œuvre dans nos vies. Et donc, en tant que témoins de Christ, nous pouvons tous affirmer, connaître le Dieu vivant qui sauve l'homme de son péché. Tout le monde peut faire ça. Tout chrétien peut faire ça. Nous devons annoncer cette bonne nouvelle puisque Dieu est puissant et qu'il a la capacité de changer le pire des pécheurs en homme pieux et doux. Et si on ne croit pas ça, ben il faut peut-être commencer là. Vous savez, grandissant dans un foyer chrétien, j'ai toujours eu les connaissances nécessaires pour croire en Dieu. J'avais naturellement un grand respect de Dieu et une certaine peur de déplaire à Dieu. Mais vous savez, c'était pas assez. Malgré ce respect et cette connaissance de Dieu que j'avais, j'ai passé la plupart de mon secondaire à craindre les gens autour de moi, à craindre que les gens apprennent peut-être que j'étais chrétien, ou en tout cas, que je croyais en Dieu, puis que j'allais à l'église. Mais pourtant, j'avais peur de plus aller à l'église. Je savais que Dieu existait. Ça me plaçait dans une position plus ou moins inconfortable. Un jour, un professeur d'école du dimanche, que je ne nommerai pas, qui était très bien intentionné, mais plutôt maladroit, a demandé à ses élèves, dont je faisais partie dans la classe, un petit devoir cette semaine-là. Il nous a dit, cette semaine, vous allez parler de Dieu à une personne autour de vous. Je me rappelle clair, comme si c'était hier, de la peur qui m'est venue quand il a dit ça. Donc cette semaine-là, un jour, dans les 5 jours de la semaine, dans le couloir de la polyvalente, je vois un ami. Là, je ramasse tout mon courage, tout mon petit courage de jeune homme de 13 ans. Tout le courage qu'un homme de 13 ans peut avoir. Et je vais parler à mon ami. Je me mets à côté de lui, subtilement, en marchant dans le couloir. Je dis, faut que je te dise quelque chose. Là, lui, il me dit, quoi? Un peu troublé. Il dit, ben, en tout cas, je suis chrétien, je crois en Jésus. Fait que c'est ça, on m'a demandé de te le dire. Il me dit, OK. Je vous le dis, ce fut les 10 secondes les plus humiliantes de ma vie, sans farce. Je crois qu'il a eu pitié de mon malaise. Il a eu pitié de mon malaise évident, puis il m'a rien dit d'autre. À part me menacer avec ça plus tard, quelques années plus tard. Mais je me rappelle de la peur et du malaise que j'ai eu à dire à quelqu'un que j'étais chrétien. Et vous savez, même après ma vraie consécration au Seigneur autour de mes années au cégep, je luttais encore avec cet aspect-là dans ma vie. J'ai dû prier régulièrement avec acharnement. Et j'ai dû m'humilier devant Dieu pour demander à Dieu d'ôter ma peur des hommes. La peur des hommes qui m'habitait naturellement. Et vous savez, j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'après quelques prières, Dieu a changé mon cœur et que je n'ai plus jamais eu honte de ma foi et que j'ai pu témoigner à des gens et des grandes foules, mais ce ne serait pas la vérité. J'ai prié beaucoup et je prie encore beaucoup pour que cette peur ne m'empêche pas de servir et de glorifier Dieu comme je désire le faire. Mais ça m'arrive encore d'être faible et de passer de côté de des belles occasions que Dieu met devant ma route parce que j'ai peur des hommes. Ça m'arrive encore. Et je peux aussi vous dire, par contre, que 10 ans plus tard, avec une prière et une supplication continuelle devant Dieu, je suis un homme beaucoup plus courageux devant les autres hommes que le garçon de 13 ans qui a abordé son ami, qui avait juste le goût de se cacher d'un casier d'école. Dieu a fait une œuvre, et je la reconnais. Mais il y a encore un combat. Et peut-être qu'il va en avoir un jusqu'à temps que je meure, je ne sais pas. Mais je continue de prier que Dieu me donne la force nécessaire pour ne pas avoir peur de l'homme. J'ai compris que la grâce de Dieu, que par la grâce de Dieu, que cette faiblesse ne devait pas m'empêcher de chercher la gloire de Dieu. Parce que vous savez, quand on vit avec des combats comme ça, on a tendance à ne voir que ça. Et là, on centralise nos vies là-dessus, puis on dit « Ah, je suis pas un bon chrétien, j'ai peur des hommes, je suis pas capable de parler de Dieu. » Et tout ce temps-là, on ne voit pas ce que Dieu fait dans nos vies. Et on ne glorifie pas Dieu. Et son pardon est assez efficace pour pardonner ma honte, même de lui. Et de renouveler mon courage, surtout quand il faiblit. Et vous savez, l'homme peut être terrifiant. Mais Jésus nous promet d'intercéder à notre égard. Et une chose qui était vraie quand j'étais jeune, qui est encore vraie aujourd'hui, c'est que j'ai, malgré la peur que j'avais des hommes, j'avais encore plus peur de Dieu. Et on doit prier et on doit s'humilier devant Dieu, lui demandant le courage nécessaire pour la proclamation de l'Évangile. Je ne vous connais pas tous individuellement. Peut-être que ce n'est pas un de vos combats. Peut-être que ça l'est. Mais je suis certain d'une chose. Dans chacune de nos vies, il y a des faiblesses charnelles qui nous empêchent de proclamer l'Évangile parfois. Et on a réellement besoin que le Seigneur nous prête sa force pour le servir. Sans quoi on est impuissant. Et on a également besoin de la prière pour venir devant lui continuellement, le suppliant de subvenir au nécessaire pour qu'on soit capable de lui rendre la gloire qui lui est due et ouvrir nos bouches en ce temps. Je vais terminer avec cela ce matin, mon troisième point, c'est-à-dire célébrer la gloire de Dieu par Christ ensemble. Il y a clairement un aspect au verset 6, qui nous témoigne d'un aspect communautaire de la foi et du salut en Christ. Donc, c'est ensemble qu'on est ressuscité et assis avec Christ, assis en Christ. Il y a un réel combat qui oppose la chair à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser les occasions que Dieu met devant nous pour se fortifier ensemble. J'en ai listé quatre. Je prendrai pas trop de temps pour les expliquer, mais premièrement, je crois qu'il y a le culte du dimanche, qui est la première occasion. Et le culte dominical est sans aucun doute le point central du croyant dans une semaine. La réunion hebdomadaire dans laquelle l'Église de Christ se rassemble localement pour le glorifier. Le culte en commun de l'Église est le moyen que nous voyons dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, avec lequel le peuple de Dieu se réunit pour louer Dieu, pour écouter sa loi, pour apprendre sur sa personne. Par la louange, par la prédication et par la communion en commun, nous élevons chaque semaine notre Dieu pour le glorifier le jour du Seigneur. Deuxièmement, on voit le repas du Seigneur comme un autre moyen donné à l'homme, qui est un sacrement, le sacrement du repas du Seigneur. À la table du Seigneur, on est invité régulièrement à prendre un temps de communion spéciale en présence de Christ lui-même. C'est une occasion importante qui a pour but de nous rappeler le prix payé par Christ et la grâce de notre salut. C'est l'occasion d'avoir une communion spirituelle avec Christ. Et je vous invite à prendre cette occasion au sérieux, si ce n'est pas déjà le cas. Troisièmement, la réunion de prière. La réunion de prière est une excellente occasion au milieu de la semaine de nous ressourcer. Vous savez, moi le premier, je ne peux pas tout le temps être là, mais quand je peux, je m'y fais un devoir et un plaisir d'y être. Parce que je reconnais que la prière est centrale à mes efforts pour rendre gloire à Dieu. Et centrale si je veux apprendre à vivre étant dépendant de Dieu. Et surtout si je veux avoir la victoire sur le monde, sur l'homme, sur les péchés. Et quatrièmement, les activités de communion fraternelle sont aussi une excellente façon dont on peut ensemble célébrer la gloire de Christ. Et ce n'est pas une liste exhaustive, là, j'en ai pris quatre qui sont faciles évidemment, mais il y a toutes sortes de façons que l'on peut rendre gloire en Dieu en étant hospitaliers les uns les autres. Toutes sortes de façons. Donc, mais l'important, je crois, c'est que on doit apprendre non seulement à glorifier Dieu dans nos vies, mais à glorifier Dieu ensemble dans nos vies. Prions en finissant. Merci Seigneur de ton pardon, ton amour, ta grâce et ta bonté. Qui un jour, Seigneur, ont efficacement lavé nos péchés. Tu nous as personnellement aimés, sauvés, Seigneur, par le sang de ton Fils. Quelle grâce incroyable à notre égard, nous qui étions mauvais, qui étions pécheurs, qui étions rebelles à ta volonté. Nous prions, Seigneur, que ce matin, tu renouvelles en nous nos forces, notre courage, notre faiblesse, que tu renouvelles ce désir de te plaire plus que autre chose dans ce monde. Pour que tu sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Mets de côté les choses de ce monde. Vois notre faiblesse. Et apprends-nous, Seigneur, comme le bon Père que tu es, à te prier, à te faire confiance et à marcher, Seigneur, dans tes voies, dans l'obéissance, à chaque jour, au travers de chaque situation. Nous prions pour le reste de cette journée qui t'appartient, que tu te glorifies dans nos vies, nos familles, dans ce temps de repos. Donne-nous de rester, Seigneur, au centre de nos vies, de nos familles, de nos pensées et de nos actions, Seigneur. Amen.